Alors aujourd'hui, chers amis, je veux continuer à expliquer ce que ça veut dire monter au ciel. Alors, quand Enoch est monté au ciel, je résume en tout, c'est parce que c'est Dieu qui approuve son serviteur juste, celui qui a servi sa parole. Voilà. Comme il a approuvé Noé, qui est un serviteur de la parole pendant 100 ans, et qui l'a placé dans l'arche, et qu'il a... Noé avec sa famille ont échappé au déluge. Donc, chaque fois que quelqu'un monte au ciel, c'est l'approbation de Dieu à l'égard du serviteur ou de la servante juste qui a accompli leur travail au niveau du témoignage de la parole, du témoignage d'une bonne vie dans la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons regarder à Élie. Nous allons voir ce que la Bible nous dit de Élie. Nous allons dans le livre 2 Rois, donc le deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 2. Donc Élie, c'est au 8e siècle avant Jésus. Hein. Donc Élie, deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est quoi Gilgal? C'est une localité pas loin de Jéricho, non pas dans la Judée, mais dans les contrebas de la Judée, dans le contrebas, au pied des monts de Judée, et c'est à cheval sur la vallée du Jourdain et le pied des monts de Judée. C'est toujours là, cet endroit-là, que tous les Hébreux se sont réunis quand ils étaient dans des difficultés extrêmes. C'était le point de ralliement, le point pour se regrouper, retrouver des forces et prier, et puis pour souvent prendre la contre-attaque contre ceux qui les avaient délogés un peu partout dans le territoire d'Israël. Donc Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Bethel, c'est le nom veut dire Beth-hel. Hel, c'est Dieu. Beth, Beth, c'est la maison de Dieu. Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est qu'Élisée sait très bien que... Élisée est un laboureur. Il plantait des térébintes et il avait plusieurs paires de bœufs et il travaillait beaucoup avec la charrue. Et voilà-t-il bien que Dieu le désigne comme le successeur de Élie dans le prophétisme, dans une période extrêmement difficile où Jézabel, qui provenait de la région du Liban, était une femme extrêmement méchante et dure. Attaché à la sorcellerie, qui provoquait la mort de tous les prophètes, qui provoquait des prêtres fidèles à l'Éternel, et qui avait marié le roi d'Israël, Akaz, et qui, lui, était comme un petit toutou, faisait toute sa volonté, et qui était aussi horrible dans ses décisions. Donc c'est une période très pourrie, on pourrait dire, hein, si vous voulez. Pour un croyant, c'est une période pourrie, et il faut résister. Hein. Il faut tenir bon, il faut être fidèle à Dieu. Alors, Élie a fini son ministère, il va partir, Élisée le sait, Dieu a choisi Élisée, mais voilà qu'Élisée a peur. Il a peur de se retrouver tout seul, sans Élie, et confronté à tous ces gens-là qui ne sont pas des enfants de cœur. Alors, je continue la lecture, au chapitre 2, verset 3, « Les fils des prophètes qui étaient à Bethel » sortir vers Élisée et lui dire « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Donc il y a toujours eu des prophètes en Israël et il y a des familles comme ça qui où on appelle ça les fils des prophètes. Alors il répondit « Je le sais, taisez-vous. » Il est énervé, angoissé, il ne sait plus où il en est. Il n'a pas envie du tout qu'Élie s'en aille. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Donc, qui n'est pas loin, mais en attendant, Chaque fois, Élie veut se décoller, se défaire de Élisée. Élisée, surtout, ne veut pas. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Il y a deux Jéricho. Celui qui, à l'époque de Josué, vers les années 1200, qui a été détruit par un tremblement de terre, quand le peuple hébreu tournait alentour de la ville en jouant de la trompette et en priant. C'est un tremblement de terre qui a démoli la ville. C'est la première ville de Palestine qui a été conquise comme ça, sans que les Hébreux aient eu besoin de faire quoi que ce soit. Mais pratiquement, il y a un autre Jéricho qui est à plusieurs kilomètres de là, dans une vallée où il y a beaucoup de sources et des palmiers. On appelle ça la vallée des palmiers. Et elle existe toujours. C'est un endroit très joli, très intéressant. C'est le Jéricho d'aujourd'hui encore. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et ils remettent toujours le couteau dans la plaie. Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Qui n'est pas loin de là. Il y a peut-être à peine 800 mètres, un kilomètre. Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, ils passèrent tous deux à sec. Élie avait au niveau prophétisme, avait des signes de puissance extraordinaires. Ne doutez pas, ça existe. C'est possible. Ne doutez pas de cela. Je vous en supplie. Vous pouvez prendre ça pour des fables, mais il y a des hommes de Dieu, quand ils prient, ils sont exaucés. Ils sont exaucés. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Donc, que l'Esprit Saint agisse deux fois plus puissamment chez lui. Ben oui, parce qu'il se sent deux fois moins costaud que Élie. Il se sent beaucoup moins apte. Et il se rend compte qu'il faut combler la lacune. Et je voudrais vous dire ceci. Quand on a la foi, quand on veut servir le Seigneur, si réellement ça se passe comme le Seigneur l'a voulu, on voit toujours ses propres lacunes. On voit toujours ses manquements, on voit toujours ce qui nous manque. Et on se rend compte qu'on est incapable. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ça évite de s'enorgueillir, ça permet de dépendre de Dieu. Et Dieu nous enseigne cela. Quand on veut servir Dieu, c'est ça qui se passe. Et vous pouvez avoir les mêmes sentiments quand vous avez des enfants, une famille, vous avez une tâche. Si vous êtes chrétien et que vous priez, et que vous demandez dans le secret de votre chambre, de votre cœur, à Dieu, comment il faut éduquer les enfants, comment il faut conduire la famille, comment il faut gérer le budget, comment il faut se comporter avec des voisins qui parfois ne sont pas agréables, ou dans le travail, ou à l'école, il y a des gens pas agréables. Il y a toujours un problème. On n'a pas besoin de les chercher, il en vient toujours. Alors, il faut savoir que celui qui est croyant fait l'expérience, le vrai croyant, qu'il est démuni et qu'il a besoin du secours de Dieu. Ça, c'est une expérience extrêmement importante. Ce n'est pas un complexe, ce n'est pas de la psychologie, c'est spirituel. C'est une expérience qu'il faut accepter. Pourquoi ? Parce que nous sommes invités à nous mettre en dépendance de Dieu. Tentative de reconnexion. Je ne sais pas si ça va se reconnecter. Voilà. Ça s'était coupé, je m'excuse, c'est pas moi la faute. Vous connaissez bien l'Internet, c'est pas toujours très facile. Alors, verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. » C'est pas qu'il est orgueilleux et qu'il veut être deux fois Rambo, hein. C'est pas ça. C'est parce qu'il se sent tout petit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai en ville avec toi, quand il va monter vers le ciel, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les os et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Vous voyez la panique ? La panique, il se reposait sur l'homme. Quand on est au service de Dieu, on finit toujours par faire l'expérience qu'on ne peut plus se reposer sur l'homme. Ça, c'est clair. Et si vous êtes un vrai croyant, c'est comme ça. Ça finit ou ça commence comme ça. Et si c'est le cas, ça commence comme ça. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les os et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les os, ils se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Alors, je voudrais vous dire que dans le verset 12, « mon père », il crie cela, « papa, papa » à Élie, parce que vraiment, c'était un homme de référence, Élie, à son époque. Il avait tenu tête à Jézabel, à tout le monde. Il avait beaucoup souffert aussi, mais il avait été dirigé, guidé, protégé par Dieu. Alors, c'est un homme de référence sur lequel on a tendance à s'accrocher énormément. Mais il faut savoir que tout quiconque sert Dieu disparaît un jour et que le croyant est appelé à se tourner vers le Seigneur et à dépendre de lui. Il faut faire attention aux attaches sentimentales et psychologiques. C'est bien, c'est honnête, c'est humain, mais Dieu veut plus pour vous. Il veut que vous vous tourniez vers lui. Alors moi, j'ai toujours le sentiment, quand je fais mes visites, j'ai repris mes visites depuis la semaine passée, les réunions bibliques et les enseignements, tournez-vous, attachez-vous au Seigneur. Alors, il est difficile, la connexion recoupe. Est-ce que c'est Noémie qui est en train de... Elle ne devrait pas arrêter, Noémie. Ce serait peut-être mieux. Si elle pouvait arrêter un peu, je ne sais pas. Je ne sais rien.
La connexion de papa coupe tout le temps alors qu'il est en train de faire le message.
Voilà. Alors, au verset 12, « Char d'Israël et sa cavalerie ». Il est peut-être possible que vous ne compreniez pas ce que ça veut dire, mais dans le cas de Élisée, plus tard, il arrivera un jour que le roi de Syrie vient avec une armée pour l'arrêter. Pour l'arrêter, le prendre, le faire prisonnier, ou le tuer. Mais ce qu'il y a, Élisée est dans la maison, dans sa petite maison, avec son serviteur, Géasi, et il ne sort pas. Et alors le serviteur panique, il va voir et il dit « Mais il y a toute la cavalerie du roi de Syrie qui est là. » C'est comme si aujourd'hui il y avait des chars blindés, des jeeps et des paracommandos, des snipers. Et pratiquement, Élisée dit à son serviteur « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. » Et alors Élisée prie et le serviteur Géasi voit qu'il y a une multitude d'anges alentour de la maison qui le gardent. Je voudrais vous dire que cela est possible. C'est possible. Il m'est arrivé parfois d'être dans des situations invraisemblables, très dangereuses, et je voyais les gens qui s'arrêtaient, qui n'osaient pas me frapper, qui n'osaient pas aller plus loin. Et donc c'est que Dieu leur faisait percevoir quelque chose que moi je ne voyais pas. Je vais vous, par exemple, vous donner le cas de Sadhu Sundar Singh. C'est un Sikh, c'est un homme très noble, très riche, du nord de l'Inde, et qui avait un avenir formidable au niveau de sa dynastie, au niveau argent, femme et tout le reste. Et
il
s'est converti à la foi chrétienne. Il s'est converti et il a vécu comme presque un mendiant. Il partait dans tous les villages annoncer l'évangile, dans l'Himalaya, le Népal, etc. Et pratiquement, il a un jour été cerné. Il était dans une grotte, dans la montagne, et il était en train de prier. Lorsque plusieurs centaines de personnes sont arrivées avec des haches et des couteaux pour le tuer, et les gens le regardaient, ils étaient effrayés, ils sont tous repartis. Et le lendemain, tous ces gens sont revenus en disant au sadhu, mais qu'est-ce qui se passe? Qui étaient tous ces gens qui étaient à côté de toi, et à l'entour de la grotte pour te garder? Comment se fait-il? Ils étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux que nous. Alors, les ennemis spirituels du sadhu avaient été impressionnés par la présence des anges, et Dieu avait permis qu'ils les voient. Et donc, c'est le cas, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui, hein. J'en suis sûr, j'ai déjà eu des témoignages en circulant, en voyageant, et en rencontrant des gens d'autres pays. Alors, c'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui résistent aux martyrs, qui résistent à l'oppression. Voilà. Nous, ici, on ne cherche pas tellement à s'entourer. On n'est pas vraiment dans la détresse, donc on n'a pas besoin de cet ultime recours. Un peu dommage, parfois, je dirais. Peut-être qu'on va en faire l'expérience dans les jours et les années qui viennent. Hein. Alors, le char d'Israël et sa cavalerie, ça veut dire que c'est l'armée de Dieu. Quand on dit l'Éternel des armées, c'est ça. Ce sont les anges et les chers humains qui sont une puissance formidable, plus grande que les puissances humaines. Ne l'oubliez pas. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que cet homme, ce brave homme, va un jour servir le Seigneur, et il a vu son papa spirituel s'en aller au ciel. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Élie n'est pas mort? Pourquoi? C'est à se demander pourquoi. Il y a des incrédules d'abord. On va voir l'attitude des incrédules. Verset 15. Nous sommes toujours dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ouais, ils ont tort, hein, parce qu'on n'adore que Dieu. Hein. Mais enfin, voilà, c'est l'attitude des hommes, souvent par faiblesse, par crainte ou par intérêt. Par manque de foi. On ne se prosterne que devant Dieu. Ils lui dirent « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître, donc Élie? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées, donc il ne serait pas parti de la terre. » Il répondit, ne les envoyez pas, mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Vous voyez là, Élisée a pris autorité. Il est sûr de ce qui est arrivé. Et voilà, il fait l'expérience de la présence des incrédules, qu'il le sollicite à tout bout de champ. Ça, c'est pas évident. Quand on a vraiment la foi, quand on est dans la foi, quand on est avec le Seigneur, on fait l'expérience de beaucoup d'incrédules autour de soi. Et je ne fais pas de sous-entendu, hein, je ne vous vise pas, rien du tout, mais c'est clair, la plupart des personnes sont incrédules. Elles veulent toujours des signes, des preuves, elles vont toujours chercher, et elles discutent, elles se cassent la tête à savoir pourquoi, ils n'arriveront à rien. Alors, regardez bien en versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Donc, des gens lui donnent un titre, hein, « Mon Seigneur ». C'est plus l'Élysée derrière ses charrues, ses bœufs et tout ça. Ça y est, on lui met des grades et des étiquettes. « Comme le voit mon Seigneur ben, ». Vous savez, hein, dans toutes les grandes religions, il y a des « Mon Seigneur », hein, etc. Ça n'avance à rien. C'est pas Dieu qui a voulu ça. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc ils disent, on a un problème, tout est pollué. Tiens, je vous le dis d'avance, tous les signes qu'on trouve dans le ministère d'Élie et de Élisée sont des signes qui correspondent aussi pour aujourd'hui. C'est assez étonnant, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la prédication, mais c'est incroyable. Alors, les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Donc, ça y est, c'est pollué, on ne peut plus boire, alors qu'il y a de l'eau. Finalement, c'est ce qui va nous arriver à tous. Et déjà, ça y est, pollué. Hein. Même celle qu'on croit bonne. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel, et lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, c'est à Jéricho, il y a plusieurs sources des eaux, très abondantes, hein. Il y jeta du sel, et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. D'abord, je voudrais vous dire, si vous avez été catholique et petit, que vous avez vu des baptêmes, vous voyez que parfois le prêtre, moi j'étais prêtre, alors on verse de l'eau sur le front, mais aussi on prend du sel. Pourquoi ? Parce qu'on se figure qu'on va faire la même chose, on va assainir cette eau et on va provoquer une eau quasiment miraculeuse sur l'enfant qui lui donne la vie éternelle. On ne peut pas copier ce qui s'est passé à l'époque d'Élisée. On ne doit pas le copier. Mais la religion catholique souvent a copié. Elle a pris des choses dans la Bible, elle l'a copié. Et peut-être d'autres, hein, religions orthodoxes, d'autres. Hein. Bon, on ne doit pas copier ce qui s'est passé avec Élisée, ni avec Élie, ni avec Jésus. C'est pas ça que Dieu a demandé. Alors, les eaux sont assainies, les eaux sont bonnes à boire. Pourquoi ? Parce que le sel représente le symbole de la foi, de la purification. Il y a un homme de foi, en présence de tous les autres, qui prie et qui sait que Dieu est puissant. Et Élisée est devenu puissant dans sa foi. En quelques minutes, en un quart d'heure ou une heure ou deux, je ne sais pas. Et est devenu puissant dans sa foi. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette puissance de prophétique. Et il lui a donné l'autorité pour assainir les eaux. Il faut bien, chers amis, que vous compreniez que souvent, Jésus a dit, avec quoi salera-t-on la terre si le sel s'avadit ? Il n'est plus bon qu'à être jeté. Pourquoi ? Parce qu'on jetait le sel dans les fumiers, on le mélangeait pour le mettre dans la terre. Et ainsi, ce fumier n'apportait pas des vers qui mangeaient les carottes, les poros, etc. Il ne provoquait pas d'acidité et il ne favorisait pas la croissance du chien-dent. C'est un fumier qui était assaini par le sel marin. Et j'en ai fait l'expérience. Je l'ai essayé dans mon grand jardin. Et donc, il y a une réalité qui est spirituelle derrière ça, c'est qu'il faut assainir notre vie, il faut assainir les conditions de notre vie, et il faut que ce soit la puissance de Dieu qui le fasse. On ne peut pas rester dans les conditions de vie que nous vivons. Notre société ne peut pas rester comme elle est là. Elle doit être assainie, elle doit être renouvelée, elle doit être transformée par Dieu. Est-ce que nous le désirons ? En tout cas, Élisée avait cette capacité d'en témoigner. Élie aussi. Et Jésus aussi a dit qu'il y aurait un temps nouveau, un temps de rafraîchissement. Et donc, il faut faire attention. Élie a témoigné d'un futur pour l'humanité. Élisée a témoigné d'une autorité qui est à l'action dans sa vie pour un changement, pour un renouvellement des choses de notre société. Donc, il faut faire attention. Élie a été enlevé au ciel parce qu'il a témoigné de cette grandeur de foi et de cette puissance de foi. Si nous allons dans Hébreux, chapitre 11, nous allons voir ou combien Apollos, quand il fait son discours, et qu'il écrit sa lettre, il témoigne de la grandeur de la foi. Tout le chapitre 11 montre la grandeur de la foi de différents prophètes, personnalités spirituelles, et évidemment, c'est une richesse pour Israël, que Israël a négligé, évidemment, mais bon, il y a quand même des Juifs qui n'ont pas négligé, hein, et que des chrétiens n'ont pas à négliger. Donc, par exemple, je voudrais vous montrer que celui qui croit en Dieu voit ce qui est invisible. En parlant de Moïse, au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. On voit que la foi permet de voir la présence de Dieu et l'action de Dieu, et de recourir à l'action de Dieu chez Moïse. Et tous les autres qui sont là, qui sont cités, dans le restant de ce texte, dans lequel est inclus Élie, tous les autres ont vu cette notion spirituelle de l'invisible. De l'invisible. Il faut acquérir par maturité, aussi par don de Dieu, la perception de ce qu'on ne voit pas avec les yeux humains, mais qu'on voit seulement avec un cœur qui est travaillé par Dieu, d'une âme qui est travaillée par Dieu. On voit et on comprend les choses autrement, et on les voit mieux. C'est cela, voir l'invisible, et on peut voir l'action de Dieu. J'en termine là avec Élie. Maintenant, je viens à Jésus dans les Actes au chapitre 2. Élie et Élisée. Hein. Actes chapitre 2. Donc, au chapitre 1 d'abord, acte, Jésus dit à ses disciples, au verset 8, acte chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce Saint-Esprit si puissant qui avait travaillé Élie toute sa vie, et Élisée et d'autres prophètes, hein, eh bien, est donné à tout croyant qui accepte Jésus. Le Saint-Esprit est donné pour être témoin. Et le mot témoin en grec, c'est martyria. Martyria, ça a donné martyr en français. Mais au départ, ça veut dire témoin. Et verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. » Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Je vous ai expliqué dimanche, à propos d'Enoch, et en référence à d'autres textes que j'ai lus, que l'au-delà n'est pas à 1000 kilomètres. Je vous ai expliqué que dans Ésaïe 59, verset 1 à 3, c'est notre péché qui fait un voile et qui nous empêche de voir Dieu. Dieu est ici. Ses anges sont ici. Ils sont ici. Je vous ai dit, j'ai dit à ceux qui écoutaient, qu'il n'y a ni temps ni espace en Dieu. Il n'y a pas d'histoire de 2000 ans en arrière, de 3000 ans en avant. Il est éternel, Dieu. Et il est aspatial. Il est partout. Il est omniprésent, il est éternel. Et donc, Dieu est là. Et Dieu, quand Jésus monte au ciel, s'en va, c'est simplement qu'il disparaît de nos yeux, il disparaît des yeux de ses apôtres, parce qu'il n'est pas, c'est pas encore venu, le monde est encore dans le péché, le monde est encore dans l'incapacité d'être en communion avec Dieu et de le voir face à face. Mais Dieu est là, lui il nous voit, il est là. Et il n'y a pas de distance entre Dieu et nous, dans son sens. Nous, nous pouvons mettre une distance, l'indifférence, l'inconscience, la folie, les convoitises, tout le reste, et des mauvaises pensées, etc. L'argent, le sexe, on peut mettre de la distance, mais on ne sait pas échapper à Dieu, il est là. On ne peut pas, on n'est pas hors de Dieu, il est là. Et donc, quand Jésus monte au ciel, vous devez toujours vous référer à quelque chose qui est dit aussi par Jésus dans Matthieu 28. Alors, allons voir dans Matthieu 28. Cela vous permettra, j'espère, de ne pas croire que Jésus est parti à des kilomètres et qu'il est loin et qu'il est indifférent à notre existence. Il est absent de nos sens, de nos perceptions humaines. Mais il n'est pas absent au sens de sa personne vis-à-vis de notre personne. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Il y avait 500 frères, là, c'est dans 1 Corinthiens 15 qu'on voit ça dans les premiers versets. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Bien qu'on voit Jésus, on peut avoir des doutes. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Ça, c'est l'être humain. Hein. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, c'est extrêmement important. C'est un pouvoir bien plus grand que celui d'Élie et d'Élisée. C'est un pouvoir divin et qui est absolu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire des enseignés, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Donc sa parole, si vous voulez savoir, vous lisez Matthieu chapitre 5 à 7, vous avez l'essentiel de ce que Jésus a enseigné. C'est très concret, c'est très simple, et c'est si on écoute ça, qu'on le met en pratique, ça y est, on est passé de l'autre côté. On est passé de la vie de péché à la vie en Christ. Alors, Matthieu 5, chapitre 5, 6 et 7. Maintenant ici, je suis dans Matthieu, chapitre 28, et il est dit ceci à la fin du verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que quand, à l'ascension, Jésus disparaît, il disparaît dans notre domaine expérimental, empirique. Il disparaît je vais dire comme Jean le dit dans sa première épître, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, avec qui nous avons vécu, c'était Jésus. La première épître de Jean commence comme ça au chapitre 1. Ben c'est fini, on ne touche plus rien, on ne voit plus rien, et on ne contemple qu'avec le cœur, dans la foi. Donc, c'est une mise en demeure, il faut avoir la foi. Et pourquoi j'ai pris Élie et Élisée? Ben parce que quand Élie disparaît, il a fallu qu'Élisée ait la foi. Il ne pouvait plus s'accrocher à son papa spirituel. Il fallait qu'il grandisse. Et donc, quand Jésus disparaît, c'est de la même façon. C'est pour que nous grandissions. C'est que nous ayons une foi responsable et adulte. Et que nous nous confions dans la puissance de Dieu. Pour que nous ayons une vraie vie avec Dieu. Nous ne restions pas des enfants spirituels. Il y a un temps pour tout. Mais si on est un enfant spirituel au départ d'une vie chrétienne, on doit absolument grandir et marcher par la foi et dans la force de la foi, dans la force que Dieu dépose en nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours, tous les jours. Donc, il n'y a pas une nuit, il n'y a pas une journée où Jésus n'est avec un chrétien. Il est là tout le temps. C'est extrêmement important, les amis. Vous ne pouvez pas interpréter le départ de Jésus à l'ascension comme un lâchage, comme un départ qu'il faut attendre. On ne le voit plus, il reviendra, etc. Alors on est dans le dépit, la mélancolie ou l'absence de foi, l'incrédulité. Ah non. Là, ça correspond aux 50 bonhommes qui ont demandé à Élisée de faire le tour de toutes les montagnes pendant 3 jours pour trouver Élie. Vous avez vu, c'est pourquoi j'ai pris ce texte. Et quand ces bonhommes-là reviennent, qu'est-ce que leur a dit Élisée? Je vous l'avais dit, ça ne servait à rien. Attention, ne courez pas à Medjugorje, à Lourdes, à Rome, n'importe où. Jésus est ici, dans votre vie. Si vous croyez en lui, vous avez donné votre vie à lui. N'est-ce pas? Alors, Matthieu, chapitre 18, verset 20. La plus belle preuve de ce que Jésus a annoncé et dit, c'est Matthieu 18, verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, vous avez le principe vivant de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est la réunion au minimum de deux ou trois personnes avec Jésus-Christ, en son nom, c'est-à-dire en sa présence, avec sa parole, en se référant entièrement à lui. Et vous avez la promesse que Jésus est au milieu d'un si petit groupe de trois croyants. C'est clair, il y a un avantage avec Jésus. C'est que nous n'avons pas de maison de pierre, de grande basilique, cathédrale, temple, synagogue, mosquée pour être avec Dieu. Il est là où nous avons accepté Jésus. Il est là où nous donnons notre cœur et notre foi à deux ou trois. C'est extrêmement important, mes amis, parce que il n'y a pas besoin d'être riche en maison de pierre, riche en or et en argent. Il suffit d'être riche en la foi, riche en le cœur de la foi. Mais comment peut-on être si attaché à Jésus qu'il se plaise avec nous et qu'il est avec nous et qu'il répond à nos prières? Regardez Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, une petite chose ou une grande chose qui est dans sa volonté peut être demandée. Pourquoi? Selon le degré de consécration et de foi que nous avons envers Jésus, Jésus nous prend au sérieux. Il nous prend totalement au sérieux. Si nous faisons la bagatelle de prier de temps en temps et de prier quand on a besoin, mais qu'on ne l'aime pas, qu'on n'a pas d'amour pour lui, il ne faut quand même pas espérer qu'il va être stupide. Dieu n'est pas stupide. Il est fidèle et il aime la fidélité. Il n'aime pas qu'on le renie. Alors, il faut savoir que pour être fidèle, il faut qu'il y ait une force en nous. Et j'en reviens au don qui a été fait à Élisée, la puissance du Saint-Esprit. Dans Romains, chapitre 5, verset 5, parce que nous allons vers la Pentecôte bientôt. Alors, Romains, chapitre 5, verset 5. Comment pouvons-nous être fidélisés, attachés à Jésus, alors que nous sommes si faibles? C'est pas si facile que ça, hein? Par nous-mêmes. C'est impossible, je pense. La foi en Jésus, la foi chrétienne, au sens propre, hein, n'est pas de nature sentimentale ou psychologique. C'est un don qui vient de Dieu. Hein? Et regardez la nature même de l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit puissant qui est en Jésus. Comme l'Esprit qui est tombé sur Élie et Élisée, pour leur donner un bon ministère. Nous, nous avons un ministère. C'est un ministère d'amour envers Jésus. D'abord l'aimer. Et puis ensuite, parce qu'on l'aime, aimer sa parole, aimer le servir dans le monde, aimer les autres. Voilà, aimer témoigner. Mais Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe point. Je vais dire ceci, la certitude spirituelle ne trompe point. Quand on a la foi, on a une certitude, une conviction spirituelle que Jésus est là et qu'on lui appartient et qu'il est avec nous. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà pourquoi Jésus a voulu donner le Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est pour que les hommes soient en capacité, comme Élie, Élisée et même plus, de servir Dieu, de l'aimer et d'en témoigner, et de ne pas rester dans l'incrédulité et la faiblesse. Ok ? L'Esprit Saint donne l'amour pour Dieu, il engendre, il maintient. Et si nous regardons, dans le chapitre 8 de Romains, que fait le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, dans nos vies. Et voilà ce que Paul dit, parce qu'il a fait l'expérience. Il n'est pas plus que nous, Paul. Il a simplement reçu l'expérience de la foi et il y a adhéré. Verset 9, 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, donc l'humain, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Donc il est très prudent, même quelqu'un qui se dit chrétien, êtes-vous sûr que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est clair que chacun de nous, ici réunis à l'entour d'Internet, doit se poser la question, est-ce que l'Esprit Saint de Jésus est venu dans ma vie et il habite en moi? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on voit qu'on ne peut pas s'assembler à deux ou trois en son nom si on n'a pas l'Esprit Saint. Nous appartenons à Jésus et il est avec nous si nous avons reçu, reçu l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait la soudure. Ok ? Alors, au verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, l'Esprit Saint venu dans la vie d'un chrétien est le garant d'une résurrection semblable, une résurrection glorieuse. Résurrection pour devenir spirituel, pour devenir semblable à Jésus. Parce qu'il y a une autre résurrection. Le corps ressuscite et l'âme, et puis on est un être de pécheur et on va avec Satan en enfer. Il y a la résurrection des injustes, qu'on appelle ça. Ici, nous parlons de la résurrection des justes, de ceux qui sont en Christ. Alors, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Donc, fini la culpabilité, fini la religiosité, les règles, les règlements, tout ça. Il y a une immense liberté dans la vie spirituelle. Parce qu'on vit avec Dieu, on vit avec Jésus, et pratiquement, on n'est pas coincé par des règlements. Bien sûr, il y a des principes, il y a des choses que Dieu a demandées, mais ce n'est pas à coup de marteau sur la tête, c'est dans l'amour. C'est dans l'aisance de l'amour, dans le plaisir de l'amour. Alors, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». Vous savez, quand une famille généreuse, parce qu'elle n'a pas d'enfant ou parce qu'elle en a déjà, veut adopter un enfant, elle fait des documents, elle fait des démarches, elle reçoit un enfant. On a fait des enquêtes, on est assuré que cette famille est sérieuse. Il y a des garants aussi qui signent, etc. Ça m'est déjà arrivé de signer pour des familles. Alors, ce qui se passe, c'est que l'enfant est adopté, il va grandir. À 15-16 ans, il va se gratter la tête. Mais où sont mes parents? Mon père, ma mère. Et parfois, il s'écarte des parents adoptifs. Pour toujours. Ou alors, il est dans un drame intérieur. On m'a caché, on ne m'a rien dit. On n'a pas voulu, ni la justice, ni mes parents adoptifs ne veulent pas que je revoie mes parents. Il se passe un combat intérieur, un duel, qui finit par engendrer de très mauvaises relations entre les parents adoptifs et le jeune, ou la jeune. Cela, c'est clair, il y a eu adoption, mais il n'y a pas esprit d'adoption. L'enfant n'a pas l'esprit d'un enfant adopté. L'esprit d'adoption, c'est celui qui a été adopté et qui aime son papa adoptif, sa maman adoptive, pour toujours, entièrement. Et tout ce qui est derrière, il l'a oublié. Ce qui compte, c'est son papa et sa maman adoptive. C'est eux les vrais parents. C'est eux qui l'ont éduqué, c'est eux qui l'ont aimé et accueilli. Et donc, il n'est pas tourmenté. Il est dans l'esprit d'adoption. Et c'est ça, quand nous avons une véritable foi en Jésus, nous avons cet esprit-là. Nous retournons vers le papa, vers le ciel, notre Père du ciel, avec un esprit d'adoption. Nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu et nous n'avons pas de querelle avec Dieu. Nous n'avons pas d'opposition, de jugement contre Dieu. Il est très dangereux pour un chrétien, à certains moments dans les épreuves, de s'en prendre à Dieu. Il est très dangereux pour un croyant de commencer, quand les choses ne vont pas comme il veut, à s'en prendre à Dieu. Là, il est en train d'attrister le Saint-Esprit, il est en train de bafouer ce que Dieu peut lui mettre dans le cœur, c'est-à-dire la paix et l'amour. Et il va tomber dans l'amertume, et il va être amer, et il peut dire des choses épouvantables. Devant les autres, il peut se détruire, pour un temps, ou pour longtemps. Donc il faut faire attention, le Saint-Esprit engendre en nous un esprit d'adoption, de reconnaissance, d'attachement, d'amour, et nous crions à Dieu, Papa, Père. Voilà ce qui est mis dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Alors, au verset 17, si nous sommes enfants donc de Dieu, par l'Esprit Saint, en Jésus, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Donc, nous avons un héritage. Nous recevons la résurrection, nous recevons le ciel, la présence de Dieu et des anges, nous recevons la gloire de Dieu, nous recevons le bonheur pour l'éternité. Il est évident, chers amis, que c'est ça un héritage. C'est pas de la bagatelle. Alors, c'est pour ça que Paul dit, dans 8, au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient-elles comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire à venir est certaine. Si votre cœur est animé par le Saint-Esprit et que vous avez l'amour de Jésus, quand vous voyez la nature, quand vous voyez un bébé, quand vous voyez des belles choses, vous vous rendez bien compte que la gloire de Dieu est dans toutes ces choses. Mais combien la gloire de la personne de Dieu est bien plus grandiose et que cette gloire de Dieu, il veut la partager avec nous. Donc nous serons plus beaux que les lys des champs, que les roses, nous serons plus beaux que tous les bébés du monde et que toutes les superstars du monde, que les beaux acteurs de cinéma, nous serons plus beaux. Nous serons beaux comme Jésus-Christ. Beaux et heureux. Sans péché. C'est ça qui nous est attribué. C'est ça qui nous est donné lorsque nous devenons enfants de Dieu et que nous recevons l'Esprit-Saint. Alors, Il est sûr que à certains moments, et surtout quand on commence à être chrétien, surtout quand on commence, mais encore après ça arrive, on fait l'expérience de la faiblesse. Avant, on était confiant en soi, on fonçait, on était toujours persuadé d'avoir raison, persuadé de réussir tout, et quelque part, on compte sur ses forces, on est dopé, et on se croit fort. Alors qu'on n'est pas grand-chose. Mais quand on devient chrétien, il y a quelque chose qui se passe, et ça, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, on fait l'expérience de la faiblesse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est une expérience très grande, qui est pas normal, qu'un être humain normal ne veut pas recevoir. Mais quelqu'un qui devient enfant de Dieu va découvrir des richesses grâce à cette faiblesse. Alors, Romains 8, verset 26. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Ça, c'est un aveu terrible. Je n'arrive pas à prier, je ne sais plus ce que je dois demander à Dieu. Je ne sais plus où j'en suis. Eh bien, qu'est-ce qu'il a mis ? C'est que l'Esprit Saint vient à notre secours pour pouvoir prier. Et lui-même, l'Esprit Saint, s'adresse à Dieu à notre place quand on ne sait pas le faire. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit Saint. Donc Dieu le Père connaît ce que l'Esprit Saint qui est en moi lui dit de moi. L'Esprit Saint parle de moi à Dieu. Il est là et il parle à Dieu. Et Dieu sait. Je suis sauvegardé par l'Esprit Saint. Je suis compris et vu par l'Esprit Saint et compris et vu par Dieu le Père grâce à l'Esprit Saint. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et l'Esprit Saint, qui est Dieu, s'adresse au Père pour m'obtenir des forces, pour me sortir des faiblesses, des égarements, etc., des folies qu'on peut faire même en tant que chrétien. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, les amis. C'est que vous avez vu la transformation sur peu de temps de Élisée. Hein? De la faiblesse, de la peur, de la crainte, etc. Boum, badaboum, il est dans la force. Et puis il est persuadé qu'il n'y a pas besoin de chercher Élie. Et puis il est persuadé que l'eau de Jéricho va être assainie, que la situation va changer pour Jéricho. Il est déjà dans la force, il est déjà dans la certitude et il est déjà conscient de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous les amis, vous êtes conscient de la bénédiction de Dieu qui vous attend, qui vous a déjà donné et qu'il veut vous donner? Il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux du cœur, les oreilles du cœur. Il faut s'apprendre à entendre Dieu et à communiquer avec lui et à lui parler. L'Esprit Saint est là pour nous y aider. Que Dieu vous bénisse.